Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir en Chine, sur les marchés chinois peut-être. C'est ce dont nous allons parler dans les prochaines minutes avec vous, Louis Darvieux. Bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes gérant chez Amiral Gestion, fin connaisseur de la Chine ou du moins observateur de parfois fonctions. Racontez-nous, avant de démarrer ce talk, comment vous positionnez par rapport au marché chinois, comment chez Amiral vous envisagez les choses.
Eh bien, en fait, structurellement, je dirais, toutes ces dernières années, on est plutôt sous-pondéré sur la Chine, pour des raisons macro, mais aussi pour des raisons microéconomiques, parce qu'en fait, la Chine, c'est peut-être le pays où la concurrence est la plus difficile entre les entreprises. Donc, trouver des bonnes idées d'investissement à long terme, c'est quelque chose, c'est peut-être l'endroit où c'est le plus difficile au monde, en fait.
Le long terme, c'est compliqué. On va essayer d'y comprendre quelque chose avec vous. Bon, il y a une situation économique qui est complexe à lire pour les investisseurs non professionnels. Comment on peut la qualifier ? Est-ce qu'elle est inquiétante ? On se parle, pour ceux qui nous écouteraient en podcast, à une autre période de l'année. Nous sommes en fin mars 2024. Faites-nous le point sur la situation économique telle que vous la lisez.
Eh bien, elle est difficile. Il y a surtout très peu de visibilité. Et pour autant, c'est pas un effondrement. Hein. C'est un peu cette situation qu'on connaît depuis 2-3 ans, avec une crise immobilière qui est forte, mais pour autant une économie qui tient parce que la consommation est solide. Hein. On a quand même des fondamentaux qui sont bons parce que la Chine est l'usine du monde, et puis parce que il y a des gains de productivité dans cette économie qui fait que la consommation est tout de même solide.
Bon, impossible de parler de Chine et de fondement moyennement solide sans parler d'immobilier.
Oui, tout à fait.
Expliquez à ceux qui nous écoutent, qui se demandent pourquoi le secteur immobilier chinois les concerne ici en France.
Alors, parce que au niveau, je dirais, de l'ensemble de l'économie chinoise, c'est très important l'immobilier. Hein, l'immobilier résidentiel, ça va représenter jusqu'à 25% du PIB chinois. Donc pour toutes les entreprises, y compris françaises, les entreprises de luxe par exemple qui vendent en Chine, c'est vrai qu'on peut pas ignorer la dynamique de l'immobilier chinois pour savoir comment le consommateur local va se comporter. L'autre effet, je dirais, c'est que l'immobilier ne pouvant plus être un moteur de croissance, l'État a tendance à se tourner vers les entreprises exportatrices et vers ses champions nationaux, et c'est comme ça qu'on voit arriver chez nous des entreprises comme BYD, toute cette vague d'exportation automobile chinoise qui met en concurrence notre industrie européenne.
Bon, c'est-à-dire qu'à vous entendre, l'immobilier est un risque qui est là, mais qui, a priori, ne va pas se traduire par un effondrement.
Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas, si on compare par exemple la crise immobilière aux États-Unis en 2007, la dette des ménages chinois, c'est que 30% du PIB, par exemple, alors que c'était 70% à l'époque aux États-Unis. Donc le consommateur reste suffisamment solide. Et puis le gouvernement fait ce qu'il faut pour éviter un effondrement complet. Hein. Mais c'est à dose homéopathique pour le moment. Et donc vous avez un frein, je dirais, à l'économie chinoise qui pourrait durer des années si le gouvernement accélère pas.
Quel lien voyez-vous entre le secteur immobilier et celui de la tech ?
Alors, c'est qu'en fait, c'est un peu les différents possibilités d'expansion pour la Chine pour les prochaines années. Le gouvernement doit faire des choix, c'est-à-dire que aujourd'hui, il a renoncé à l'immobilier, aux infrastructures financées par la dette pour driver l'économie. Mmh. Ça se comprend parce qu'en fait, les promoteurs avaient jusqu'à 13 millions de capacité annuelle de construction de logements, alors qu'avec la démographie chinoise, on va être plutôt sur une demande à 9-10 millions dans les prochaines années. Et aujourd'hui, donc il y a un peu deux voies. Il y a ou bien, effectivement, comme je disais, les exportations dans les renouvelables, dans l'automobile, même dans le textile, avec des géants comme Temu un peu partout dans le monde aujourd'hui. Ou alors un modèle qui serait un peu plus, je dirais, vraiment aller vers un modèle de pays développé, avec d'une part une montée en valeur technologique et d'autre part un modèle plus centré sur la consommation. Donc cet effort technologique, il est fait aujourd'hui. Donc c'est vrai que la Chine investit beaucoup dans ses secteurs prioritaires pour avoir une souveraineté, notamment dans tout ce qui est semi-conducteur, avec pas mal de protectionnisme. Mais par contre, le choix d'aller vers la consommation, il est encore à faire, parce que c'est plus facile de créer des emplois dans l'automobile que dans la consommation, ou justement dans la haute technologie. Donc on voit que le gouvernement, il est pris un peu entre deux priorités de ce point de vue-là.
Un petit mot de technologie et de semi. La Chine vient de bloquer l'utilisation des puces Intel et AMD dans les ordinateurs du gouvernement. Les semi-conducteurs et toute l'économie autour concerne la Chine pour plein de raisons. Est-ce que vous pouvez résumer comment la Chine se positionne sur ce secteur des semi-conducteurs à l'intérieur de la techno, mais au-delà même, je dirais?
La Chine, c'est une priorité absolument majeure, parce que c'est évidemment au cœur de cette montée en valeur technologique pour laquelle la Chine est prête aujourd'hui. Il faut voir que la Chine, aujourd'hui, il y a autant de temps passé en études supérieures au sens large en Chine que dans un pays développé. Donc il y a eu un énorme effort, je dirais, de formation de la main-d'œuvre. Donc la Chine a ce qu'il faut aujourd'hui, avec des dépenses de recherche fondamentales qui ont dépassé celles de l'Union européenne. Donc on n'est pas encore au niveau américain, mais on est déjà une puissance très forte d'un point de vue technologique. Et évidemment, les semi-conducteurs, c'est une priorité. En fait, la Chine, donc, a beaucoup de champions locaux qui progressent assez vite sur justement les puces les plus avancées, plus lentement paradoxalement sur les plus traditionnelles. Mais ça a même une dimension évidemment géopolitique, puisque aujourd'hui il y a des savoir-faire qui sont clés à Taïwan, et c'est pas pour rien que la pression politique augmente par rapport à Taïwan. C'est en partie à cause de cette dépendance qu'a la Chine encore aujourd'hui vis-à-vis de Taïwan et vis-à-vis de la chaîne de valeur qui aujourd'hui est contrôlée par les États-Unis. Donc c'est les États-Unis, je dirais, qui ont tiré les premiers en coupant l'accès chinois à certaines technologie cœur. Et donc là, on peut voir ça plutôt comme une réaction de la Chine.
La Chine dépendante de Taïwan sur ce sujet, on le comprend. Est-ce que les actions chinoises ont touché le fond ?
Alors, les actions chinoises, elles ont jamais été aussi peu chères. Effectivement, la décote sur les pays émergents, on est à peu près à 30% aujourd'hui. Historiquement, c'était plutôt une prime de 20%. On est à peine à l'actif net comptable, donc des niveaux extrêmement bas. Est-ce qu'elles ont touché le fond ? Peut-être, au moins localement, parce que le gouvernement a pris conscience que ça pouvait être un sujet. Et puis aussi parce que, en fait, dans ce contexte avec très peu de visibilité, paradoxalement, les entreprises sont tentées de soutenir leurs cours. Comme elles n'ont pas beaucoup de projets d'investissement, parce qu'en fait, il y a toute cette incertitude économique, elles utilisent l'argent pour racheter leurs actions ou récompenser les actionnaires. Donc on a, et c'est vraiment quelque chose de nouveau en Chine, on était plutôt dans le surinvestissement permanent, dans des augmentations de capital, etc. Et là, depuis le milieu de l'année dernière, le nombre d'entreprises chinoises qui rachètent leurs actions a triplé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour les actionnaires, est potentiellement beaucoup plus favorable, et c'est quelque chose qu'on voit à la fois sur le marché domestique et sur le marché international. Les entreprises chinoises cotées au Nasdaq rachètent de plus en plus d'actions, donc c'est peut-être quelque chose qui, dans un contexte de valorisation très basse, est de nature à être plus attractif dans la durée pour les minoritaires.
Alors pour ceux et celles qui nous écoutent, qui se disent bon, on est en bas, est-ce que c'est un point d'entrée, est-ce que c'est le moment d'aller mettre quelques billes, parce que finalement on est très bas, même si on va encore plus bas, on ne perd pas grand-chose. Quelle est une stratégie d'investissement pour les novices qui vous semble conseillable ?
Alors, ça peut être de se tourner ou bien vers des fonds régionaux, parce que c'est vrai que des fonds sur l'ensemble de l'Asie vont être capables d'investir justement dans les entreprises les mieux placées pour tirer profit de la croissance chinoise au sens large. C'est pas forcément des entreprises qui sont domiciliées en Chine de ce point de vue-là. sont capables aussi de bénéficier de la croissance du consommateur émergent, même dans les pays où la démographie est plus favorable. On pense à l'Indonésie, on pense au Vietnam, qui bénéficient aussi de la délocalisation des chaînes de production en dehors de Chine. Et puis après, eh ben, en Chine, si on veut commencer, on peut aussi, pour les plus aventureux, se tourner vers les entreprises qui sont les plus solides, les mieux positionnées des entreprises. Je pense par exemple à une entreprise comme NetEase en Chine, qui est peut-être aujourd'hui au niveau mondial, une des entreprises qui est capable de créer les jeux vidéo les plus intéressants.
Vous pourriez nous les plaire pour ceux qui nous suivent en podcast ou à la radio.
Bien sûr, donc NetEase, NetEase, qui est coté à Hong Kong et à New York. C'est donc un leader mondial en termes de capacité de création de jeux vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une société qui est peu chère historiquement, qui a toujours eu une très bonne politique vis-à-vis de ses actionnaires minoritaires et qui aujourd'hui devrait, dans les prochaines années, incarner un peu cette réorientation de l'économie chinoise de son marché domestique vers l'international, puisqu'ils sont des champions domestiques, mais ils ont toute une série de studios à travers le monde avec des gens de très haut talent, de très grande qualité, et qui vont sortir des jeux pour le marché mondial dans les prochaines années. Donc ça va être un relais de croissance important et un peu l'illustration à la fois d'une montée en valeur de l'économie chinoise et puis de cette nécessité de se tourner vers l'international pour la croissance désormais.
Justement, ces entreprises chinoises qui sont cotées à la fois aux États-Unis et sur le territoire chinois, est-ce qu'il y a un profil type? Et est-ce que ce sont des entreprises sur lesquelles on peut aller avec moins de risques que celles qui seraient cotées que de manière locale ?
Alors non, parce que en moyenne les profils sont extrêmement divers. Hein. Vous avez eu historiquement pas mal de fraudes à l'étranger, hein, donc faut pas y aller comme ça en pensant que c'est plus sûr parce que vous êtes à New York ou en Europe que à Hong Kong ou en Chine. Pas du tout. Historiquement, c'est vrai que c'était plutôt des entreprises internet au sens large, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a pas beaucoup d'arrivées à l'international parce que les investisseurs, notamment américains, ont tendance à se retirer du capital des entreprises chinoises. Donc c'est vrai que aujourd'hui les entreprises chinoises de qualité, elles se cotent plutôt en Chine, un peu à Hong Kong, mais pas tellement sur les marchés internationaux. On parle beaucoup de Chine, on va voir s'ils se cotent à New York cette année, mais c'est pas la tendance de fond.
Est-ce que vous pensez que la vigueur des marchés boursiers japonais et indiens est directement liée à la faiblesse du marché boursier chinois?
Alors, en partie, peut-être plutôt sur l'Inde, parce qu'effectivement, de même que les entreprises industrielles ont diversifié leur chaîne de production de la Chine vers l'Inde et dans une petite partie le Vietnam, de la même façon, les investisseurs boursiers qui veulent investir en Asie se détournent également. Donc c'est vrai qu'autant il y a 3 ans, c'était une floraison de fonds chinois parce qu'en sortie de Covid, c'était à la mode. Aujourd'hui, on commence à voir aux États-Unis des fonds Asie hors Chine, qui est un peu une
Asie excluding China.
Voilà, exactement.
Comme on peut en trouver pour le Japon, par exemple. On met le Japon dans une catégorie à part.
Exactement. Alors, le Japon, c'est expliqué parce que c'était un pays développé. Donc, il y avait plus de sens économique. C'est vrai que sur la Chine de l'Asie, c'est un petit peu absurde, à mon sens. Et c'est pour ça que si le marché se stabilise un petit peu, peut-être que c'est plutôt un signe de point extrême, local. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu des flux qui expliquent un peu l'ébullition du marché indien. Mais c'est vrai que les principaux drivers, ils sont quand même domestiques, typiquement en Inde. C'est vraiment cette montée en puissance de l'épargne domestique qui nourrit le marché indien. C'est vrai que les mouvements des grands fonds internationaux, c'est un peu plus l'écume de la vague, je dirais, de ce point de vue-là.
Bon, ce qui pourrait, le catalyseur qui pourrait inverser ces flux vers l'Inde, de nouveau vers la Chine, ça serait quoi? Une vraie politique chinoise?
En fait, ça serait aussi que le
soutien.
Alors, ou bien ça serait effectivement des mesures pour gérer notamment tout le stock des encours immobiliers qui aujourd'hui sont bloqués et qui font que le consommateur chinois a pas du tout aujourd'hui envie de confier de l'argent à un promoteur pour un nouveau projet. Mais ça pourrait être aussi qu'on ait le sentiment que l'économie redevienne priorité pour le gouvernement chinois, parce qu'en fait depuis 3 ans il souffle le chaud et le froid dans chaque secteur, On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de gouvernail. Et c'est peut-être parce que la priorité, elle est d'abord politique, géopolitique. Et du coup, l'économie, c'est une variable d'ajustement des priorités politiques qui changent d'un jour à l'autre. Et du coup, ce manque de visibilité pour tous les acteurs, que ce soit les entreprises locales, les entreprises internationales, les investisseurs, c'est ça qui fait que personne ose y aller de façon importante.
On aurait pu parler aussi un peu plus en détail des IPO. Je voudrais vous poser une dernière question sur la potentielle entrée en bourse de Chine. Donc, a priori, ça ne sera pas aux États-Unis. Ça pourrait se faire à Londres. Qu'est-ce que ça signifierait pour vous ?
En fait, Chine, ça sera un bon défi parce que justement, pour prouver que des entreprises chinoises sont légitimes sur un marché mondial avec des clients qui sont aujourd'hui principalement, évidemment, internationaux, il va falloir que Chine prouve qu'ils ont mis au point leur capacité de s'approvisionner, y compris en dehors de Chine, qu'ils fassent leur preuve en termes de traçabilité des produits. C'est extrêmement important parce que sinon les États-Unis peuvent, ou l'Europe pourrait interdire leur accès au marché. Et donc il y a vraiment, donc ça pourrait être effectivement un signal assez important en termes de crédibilité, de traçabilité, de droits humains, etc. Et ce qu'ils peuvent être suffisamment crédibles pour atteindre du coup des valorisations élevées aujourd'hui sur un marché boursier occidental, c'est une question qui va être très intéressante à suivre. Oui.
Voilà, ce qu'on pouvait dire sur faut-il investir en Chine et que penser ou que comment dire lire le marché action chinois. Merci beaucoup Louis Darvieux, gérant chez Amiral Gestion. Merci d'avoir partagé votre expertise sur la Chine. Vous reviendrez dans quelques temps nous reparler.